Réplique, Simon Laes, éducateur, avec Pierre Bonsen et François Sureau. Pierre Rickmans, qui avait choisi le pseudonyme de Simon Laes, par référence au prénom initial de l'apôtre Pierre et au roman de Victor Segalen, René Laes, est mort à l'aube du 11 août 2014 en Australie. Sur la couverture du volume réunissant ses essais sur la Chine, figure à sa demande, en caractère chinois et en français, une citation du poète Luxun. La voici. M'étant mêlé d'écrire, j'ai été puni de mon impudence, rebelle aux modes, j'ai offensé la mentalité de mon époque, les calomnies accumulées peuvent bien avoir raison de ma carcasse, tout inutile qu'elle soit, ma voix n'en survivra pas moins dans ces pages. Ces mots s'appliquent parfaitement à l'auteur des habits neufs du président Mao. Aussi, comme l'a écrit Jean-Claude Casanova dans la revue Commentaire, sa disparition est-elle une immense perte pour ceux qui aiment la littérature désintéressée, pour les connaisseurs de la Chine et de sa civilisation, pour les amoureux des îles et de la mer, pour les nostalgiques de la langue française et pour tous ceux qui appartiennent au camp de la liberté. En leur nom, j'ai invité aujourd'hui Pierre Bonsen et François Sureau. Pierre Bonsen vient de faire paraître Les parapluies de Simon Laes et François Sureau publie un article intitulé « Images de Simon Laes » dans le dernier numéro de la revue Commentaire. Ma première question sera biographique. Quel a été votre premier contact avec l'œuvre de Simon Laes? Dans quelles circonstances s'est-il produit, Pierre Bonsen?
Moi, c'était en 1971 exactement, dans un endroit que je crois que vous avez connu. J'étais dans la cagne du lycée Henri IV. Et beaucoup de mes camarades, dont mon meilleur ami, étaient maoïstes. Pour ma part, j'avais le malheur de militer, du reste avec Olivier Bongin, qui dirigeait Esprit, au PSU. Et on se faisait traiter de cochons d'humanistes. Les maoïstes, véritablement à l'époque, dans ce milieu de la cagne, l'école normale, semaient ce que je pourrais appeler une véritable petite terreur. Et je dois dire que quand, à la fin de l'année 71, les habits neufs du président Mao sont parus aux éditions Champs Libres, ça a été pour moi, je me rappelle très bien, je l'ai lu dans la semaine quasiment qui est sortie. Ça a été pour moi une véritable révélation.
Ils avaient été refusés, je crois, par d'autres éditeurs. Hein, ça vous le dites dans votre
non,
livre.
Non, pas,
les habits neufs.
Pas les habits neufs.
Ah non.
Non, les habits neufs, ça a été. Il y a eu une petite pérégrination pour le faire éditer, mais c'est pas les habits neufs, non.
Oui, il y a une petite pérégrination, donc...
Non, après, le Ombre chinoise, après, a été refusée, mais
par
différents éditeurs. Différents éditeurs au départ, c'est l'éditeur, celui à qui il faut rendre hommage, c'est l'inventeur de Simon Laes. D'ailleurs, Simon Laes, c'est l'expression même qu'il emploie. C'est René Viennet, qui est venu du situationnisme, et qui c'était aussi connaissait très bien la Chine, le chinois. Et la rencontre qui a fait le déclic, ça a été celle de René Viennet et de Simon Laes. Simon Laes catholique, René Viennet situationniste, c'est paraît totalement improbable, mais ils étaient tous les deux à la recherche de la vérité. Voilà.
Et donc c'est en 71, vous découvrez ce livre, vous êtes
moi, je me sens libéré,
élève au lycée Henri IV,
oui.
Très jeune, dans ce climat gauchiste, dont d'une certaine manière vous êtes partie prenante au PSU. Et vous êtes libéré par ce livre, mais alors est-ce que vous l'avez brandi devant ceux qui brandissaient le petit livre rouge? Est-ce que vous en êtes servi pour répondre à leur terreur?
Non, absolument pas.
C'est pas possible.
Mes camarades,
vous étiez libéré, mais...
Oui, mais mes camarades, même de très bons amis, ok, je c'est pas grave, qui ont fait une très belle carrière depuis lors, même de très bons amis, traiter ce livre, comme je m'en souviens très bien, comme... quelque chose de l'officine de la CIA, comme quelque chose d'un
ah oui.
épouvantable, etc. Et d'ailleurs, les premiers articles qui sont parus et dans Le Monde et dans Nouvel Observateur ont été. Je les reproduis dans mes livres. C'est une infamie, quoi.
Et vous, François Sureau ?
Alors moi, c'est absolument l'inverse parce que je faisais pas d'études littéraires et je m'apprêtais à devenir Étienne Manac. Vous savez, un petit garçon bien élevé en cravate qui veut rentrer à l'école d'administration et devenir diplomate. Et à l'époque,
Étienne Manac a été l'ambassadeur.
Étienne Manac est l'ambassadeur en Chine, dont Simon Leys a tracé un portrait réjouissant dans un de ses livres. Enfin, un portrait absolument accablant, quoi, comme d'un représentant absolument parfait de la sous-pensée bureaucratique. Et donc, j'étais en train d'étudier dans le temple de la sous-pensée bureaucratique. Et dans ce temple, à l'époque, il y avait des vérités d'évidence. Alors, elles n'étaient pas présentées dans l'espoir de la révolution, car l'administrateur moyen ne souhaite pas la révolution, mais dans l'idée de la soumission politique au pouvoir maoïste. À l'époque, quand on étudiait, on apprenait d'abord que l'Union soviétique était une grande chose qui allait concorder et coïncider avec le système occidental et que les différences faibles existant sur les droits de l'homme, tout ça n'était pas très important. Et puis d'autre part que Mao était un personnage considérable qui allait propulser la Chine dans le monde moderne. Et tous les fonctionnaires qui nous donnaient des cours étaient des fonctionnaires qui partageaient cette idée. Quand Giscard déclare au moment de sa mort que Mao est un phare de la pensée mondiale, il est absolument révélateur de cette pensée technocratique dont Perfit est également une des illustrations. Et donc j'étais plongé dans un bain très différent de celui de Pierre Bonsède, mais néanmoins soumis à la même. Et puis un de mes camarades de promotion, qui lui venait de la rue d'Ulm, un jour m'a passé Simon Leys en me disant quand même, je suis tombé par hasard là-dessus, c'est quand même tout à fait extraordinaire. Alors c'était les habits neufs, j'ai ouvert les habits neufs, et franchement, j'ai ressenti un choc de lecture comme une sorte d'irruption d'air frais, comme l'irruption de la vérité, etc. Moi, ce qui me frappait, c'est qu'en dehors des études technocratiques de l'époque, le soir, je lisais, je me sentais quand même environné par cette idée très présente à l'époque qu'on pouvait pas aimer Racine autrement qu'à travers Barthes ou Guyotat, quoi, si je puis dire. Et cette espèce d'idée généralement déconstructrice de tout et qui était la médiation obligée du simple amour des lettres. Bon. Et à la fois dans le style et dans le fond et dans la pensée politique, Simon Leys a représenté pour moi un ébranlement absolument total, voilà, dont je ne suis pas encore.
Et donc ça vous a modifié, vous diriez.
Ah oui, complètement. Oui.
C'était vers quelles années?
C'était en 60, ça devait être en 76, 77, quelque chose comme ça.
Peu après,
donc, 76, 77
de Pierre Bonsède.
Et, oui. Et en même temps, c'est extraordinaire parce que après j'ai publié un ou deux livres et dans la maison où je publiais, il y avait des maoïstes fanatiques. Ou des gars qui expliquaient que... Et à l'époque, quand on leur disait, mais enfin quand même, Solers, par exemple, il y a 20 ou 30 ans, enfin 30 ans maintenant, 20 ans, quand on lui disait, mais enfin quand même, Simon Leys réduit à néant toutes vos cornucuteries, il luttait un peu, quoi, quand même, hein, il résistait. Bon, puis à la fin, il a fini par ne plus résister, mais il résistait. C'était quand même une pensée très, très minoritaire.
Oui, c'était une pensée très minoritaire, et Pierre Bonsède, vous citez cet extrait d'un livre de Simon Leys qui explique sa prise de conscience. Il était en Chine et il dit ceci: Lin Bin, en compagnie de son cousin, Lin Bin, artiste de variété animant une émission satirique très écoutée, fut brûlé vif dans sa voiture au moyen d'une bombe incendiaire. L'attentat eut lieu devant ma porte, comme je sortais de chez moi. Le lendemain, le Dagong Bao, quotidien communiste de Hong Kong, publiait relativement à cet assassinat un bulletin de victoire émanant du commando chargé de châtier les traîtres. C'est assez emblématique de ce qui s'est passé pendant la révolution culturelle.
Là, on remonte un petit peu encore dans le passé encore, et c'est le choc qui a créé Simon Leys.
Le choc initial.
Parce qu'il faut bien voir que Simon Leys, d'abord, c'est Pierre Rickmans.
Oui.
Pierre Rickmans, c'est un amoureux de la Chine et pensait pouvoir passer sa vie dans l'amour de la peinture et de la littérature chinoise, de la peinture spécialement. C'est un grand spécialiste de peinture et il est déjà, à cette époque-là, il vit à Hong Kong et il est déjà reconnu dans le monde chinois, des études esthétiques chinoises, etc. Et il vit à Hong Kong et là, c'est en août, je crois, 1967, effectivement, cet artiste Lin Bin, un artiste de variété, qui se fait brûler vif de sa voiture alors que Pierre Rickmans sort de sa... Et ça a été pour lui, il dit, une incroyable leçon de politique. C'est-à-dire qu'il a vu ce que c'était que la révolution culturelle en face. La révolution culturelle, je le rappelle, a commencé en 1966, un an avant. Et lui, il voit, comme tous les Chinois, Ils voient les Chinois qui, enfin les gens qui vivent à Hong Kong, il n'y a pas que les Chinois qui vivent à Hong Kong, ils voient l'horreur, ils voient les cadavres défiler, ils voient on parle aujourd'hui des horreurs de Daesh, mais vous savez, c'était ça. Les gens jetés dans la rivière, vivant dans des cages. Et dans des cages, c'était ça. Et la révolution culturelle, c'était ça. Et pendant ce temps-là, à Paris, je veux dire, vous aviez des gens qui célébraient ça comme la glorieuse.
Il y a même dans la. On en parlera peut-être après, mais Simon Leys avait une relation assez amusante avec André Malraux. Donc je pense qu'il l'avait aimé. Il dit à un moment, d'ailleurs, dans une incise de phrase, qu'il avait enchanté sa jeunesse, que quelque chose l'avait fait rêver dans Malraux, qu'il considérait par ailleurs comme un faiseur et comme un charlatan.
Ça,
et il raconte, dans un de ses livres, il raconte qu'il a eu accès aux transcriptions faites par l'interprète chinois de l'ambassade et éventuellement un autre tiers, des conversations exactes entre Malraux et Mao Tse-Tung.
C'est un sinologue français qui s'appelle Jacques Andreux.
C'est
qui
Andreux.
Qui a publié voilà. En se basant sur les scripts de l'entretien.
Exactement, et il commente, et Simon Leys commente ça. Ouais. Et en fait, c'est très intéressant sur la révolution culturelle. En fait, naturellement, ils ne se disent rien de ce que Malraux prétend qu'il a dit à Mao Tse-Tung. En revanche, Mao, dans le script, dit quelque chose de fascinant. Il y a trois lignes où il lui annonce le début de la révolution culturelle. Et Simon Leys, qui est avant tout un amoureux de la vérité pratique, regarde ça en disant, mais voilà, l'imaginaire narcissique de Malraux a fait son œuvre. En réalité, il y avait une chose à voir, une chose à dire, une chose, le cas échéant, sur laquelle interroger Mao, une chose dont il fallait parler en revenant en France, c'est les trois lignes où Mao lui annonce qu'il va faire feu sur le quartier général.
Et alors justement, restons-en à cette expression.
Excusez-moi, c'est encore pire, hein, parce que en fait, Malraux ne voit pas que Mao lui annonce la révolution culturelle. Il ne voit absolument pas. Tout le script le montre bien, et le script français, et le script chinois. Mais après, dans une réédition des Antimémoires, Malraux a falsifié le truc et a fait semblant de fois qu'il l'avait vu. Donc c'est quand même assez incroyable de la part de Malraux. Hein.
Revenons-en à cette expression « feu sur le quartier général ». Parce que Pierre Bonsen, vous commencez votre livre par une relation assez longue, très drôle, de l'entretien, enfin de l'émission apostrophe, où Simon Leys se trouvait opposé à Maria Antonietta Machocchi, qui avait publié De la Chine. Elle dit des choses qui nous paraissent aujourd'hui incroyables, qui peuvent nous faire rire. Vous citez aussi longuement Michel Loi, qui a écrit ce livre chez Maspero, L'intelligence au pouvoir, à propos de la Chine maoïste. Donc, on voit là, en effet, les errements, les délires de toute une part de l'intelligentsia française. Délire à laquelle, en effet, une partie de la jeunesse a pris sa part. Bien, mais il faut s'interroger sur la raison de cette adhésion. Parce que ce n'est quand même pas, c'est pas tout à fait une réédition, me semble-t-il, de l'aveuglement de l'intelligentsia pour Staline, bien qu'on puisse le penser. Comme en témoigne précisément l'expression feu sur le quartier général. Ce qui a fasciné, non pas les foules, mais des étudiants et un certain nombre d'intellectuels, c'est cette idée d'une révolution lancée à l'assaut de la bureaucratie elle-même, d'une révolution dans la révolution. Après tout, Badiou, qui reste maoïste aujourd'hui, hein, qui ne renie rien de son adhésion à la révolution culturelle, était un lecteur encore enthousiaste de Sartre, et Sartre, c'est la critique de la raison dialectique, c'est-à-dire le groupe en fusion, opposé à la retombée dans le pratico-inerte. Et là, on avait l'impression que c'est ce qui se jouait. Il y avait une bureaucratie, et Mao Tse-Tung avait donné le signal d'une révolte anti-bureaucratique, d'où, effectivement, l'existence de ces Mao spontextes et la fascination qu'on pouvait avoir par ce qui apparaissait comme une critique de gauche, une critique en acte du stalinisme même. D'où l'idée que ça ne pouvait pas être stalinien, puisque précisément, il s'agissait de s'en prendre à ce qu'il pouvait y avoir de stalinien dans la Chine maoïste. Alors bien sûr, c'était une illusion effrayante, mais je crois que si on manque cette originalité-là, cette originalité fallacieuse, on ne comprend pas pourquoi il y a pu y avoir un tel enthousiasme dans les années 70, Pierre Bonsen. Oui, non, mais ça n'est pas convaincant.
Non, moi je suis pas. Parce que là, vous continuez la même illusion.
Mais non. Mais je la dénonce, mais je dis, pourquoi ça a fasciné?
Mais ça a fasciné parce que, mais c'est ce que dit Simon là, ça a fasciné alors qu'une fascination exotique pour la pureté idéologique, pour la pureté, pour tout ce que vous voulez, le pratico inerte,
contre le pratico inerte.
Le groupe en fusion, enfin, j'ai lu ça, c'est la critique de la raison dialectique, vous inquiétez pas, ça a fasciné, mais justement, Simon là, c'est arrivé.
Et
dit, attendez, tout ça c'est de la phraséologie, et tout ce que veut Mao c'est reprendre le pouvoir, parce que Mao a été écarté du pouvoir, c'est tout, point à la ligne, effectivement.
Bien sûr, donc il y avait une imposture.
Avant de se parler des raisons qui personnellement me sont presque radicalement incompréhensibles sur le plan intellectuel de l'adhésion de cette génération à cette folie, je crois que l'interrogation de Simon Leys ne porte pas sur l'adhésion en elle-même, mais sur la cécité à laquelle cette adhésion a conduit. Par exemple, quand il analyse les textes, il regarde la plupart des textes produits à cette époque et qui explique que tout ça est une lutte contre le stalinisme, alors que Staline était l'auteur préféré de Mao et que Mao ne faisait rien d'autre que de mettre en œuvre du Staline. À cet égard, il n'y a absolument aucune différence de nature entre l'épuration des chefs de l'armée rouge par Staline à partir de 1933 et 1934 la révolution culturelle. Tout ça est exactement le même mécanisme au service de la même chose. Et quand Leys, dans un de ses livres, critique Koslakowski, il dit quelque chose de très intéressant. Il dit, au fond, ce qui est étonnant, ce qui m'a étonné d'abord, c'est le fait qu'on parle du blanc en disant que c'est noir. C'est-à-dire qu'on parle du maoïsme, on parle sans jamais employer le mot de totalitarisme, à aucun moment. Et, dit-il, de manière assez drôle, c'est aussi amusant que de voir des géographes essayer de décrire le Sahara sans employer le mot sable, ou le mot de Pôle Nord sans employer le mot neige. La première question de Simon Leys, elle porte sur la cécité et les falsifications du compte-rendu. Puis il y a une deuxième chose qui me paraît extrêmement importante, c'est que Simon Leys n'est pas français. Tout ça, c'est quand même des folies françaises. À part trois mecs de Princeton, c'est quand même une folie française. Ni en Angleterre, ni en Allemagne, ni nulle part. Enfin, cette manifestation hystérique...
En Italie, oui.
Mais il y a une manifestation hystérique d'un provincialisme progressiste qui est vraiment une caractéristique française et qui étonne Simon Leys en sa qualité de Belge. Bon. C'est une chose qu'il ne faut jamais oublier. Il y a une extranéité. Et puis la troisième chose, c'est que je pense qu'au départ au moins, on le voit d'ailleurs dans les habits neufs, je pense qu'au départ au moins Simon Leys se pensait, après je ne sais pas ce qu'il est devenu, et j'ai jamais eu l'occasion de demander ses opinions politiques, mais au départ au moins il se pensait comme quelqu'un de gauche. D'une certaine manière, le maoïsme, il le voit comme une tradition de sa gauche orwellienne à lui, de celle qu'il a aimée, d'une gauche de la fidélité aux pauvres et de la fidélité au réel. Et tout ça, pour lui, est en réalité un délire de petit crétin à moitié maboule, qui en réalité piétine à la fois l'idéal de gauche de sa jeunesse et les enseignements d'Orwell de la guerre d'Espagne. Et c'est ça qui provoque en lui cette espèce de surprise massive, qui me paraît encore actuelle.
Simon Leys était fasciné jusqu'à la fin par la lecture de Hommage à la Catalogne, d'Orwell. Et il n'y a pas un texte plus à gauche que Hommage à la Catalogne, et plus contre le stalinisme. Pour prolonger ce que vient de dire François Sureau, bon, sachant que je venais ici, hier par exemple, je me suis amusé à regarder les dictionnaires du style Petit Robert. Vous savez, ce sont des indicateurs, des thermomètres très bien. Et dans une édition du Petit Robert, c'est-à-dire 20 ans après la mort de Mao, 95, donc il y a 20 ans, et vous avez la rubrique Mao, vous n'avez pas une mention, par exemple, de camp de travail, du laogai chinois, de la répression, et même, par exemple, quelque chose comme le grand bond en avant, c'est décrit comme une initiative audacieuse.
Je pense qu'en réalité, Simon Leys
pensait que... On ne voit pas que le maoïsme a été un totalitarisme effroyable.
Moi, je suis tout à fait d'accord avec ce que vient de dire Pierre Bonsen. Il y a quelque chose qui, à mon avis, me paraît informulé, à moins que quelque chose m'ait échappé chez Simon Leys. C'était idée, globalement, que les intellectuels français du XXe siècle n'aiment pas la liberté. Ils ne l'aiment pas de manière radicale, par quelques bouts qu'on la prenne. Ceux qui n'ont pas été nazis ont été fascistes, ceux qui n'ont pas été fascistes ont été staliniens, les autres ont été cocos jusque dans les années 70, et les derniers ont été maoïstes. Pour lui, il est clair que les intellectuels français n'aiment pas la liberté.
Et je ne dirais pas tout à fait des choses comme ça, et il me semble que, justement, il manque, dans ce que nous sommes en train de dire, une analyse des raisons profondes qui ont poussé certains à se croire maoïste dans les années 70. C'était un maoïsme largement imaginaire, mais il y avait cette idée que cette fois-ci, on était du côté de la commune de Pékin, commune de je sais pas quoi, du côté des masses contre le parti. Et du côté aussi de la jeunesse en rébellion contre, précisément, le vieux monde. Il y a une sorte d'écho entre ce qu'on croyait savoir de la révolution culturelle et certains slogans de 68, « Cours camarade, le vieux monde est derrière toi », ou pour le dire de manière beaucoup plus sophistiquée, comme Maurice Blanchot, « Le communisme est sans héritage, le communisme peut être l'héritier, pas même l'héritier de lui-même, le communisme balaie tous les héritages ». C'est ça qui a fasciné, et il me semble que si on ne le voit pas, si on ne le dit pas, on risque de manquer... Enfin, comment dire, ce qui reste de cette façon de penser dans la doxa elle-même, dans la doxa actuelle. J'ai apporté aujourd'hui un numéro du Monde, il y a quelques jours, sur la critique par l'Académie française de la réforme du collège. Vous savez que les académiciens français ont publié un texte mettant en garde contre cette réforme. Alors, le texte est commenté, mais il y a un dessin effroyable que Charlie Hebdo n'aurait jamais osé publier. Un très très vieil académicien avec des pantoufles, son habit, son bicorne, agitant l'épée, poussant son déambulateur, dans lequel il y a un panier et le dictionnaire d'Académie française. « Moi, je sais ce qui est bon pour les jeunes », on imagine que sa voix est chevrotante. Il est accompagné d'un infirmier qui dit « Voilà, c'est ça, on leur dira. De toute façon, c'est voté depuis 10 jours. On va rentrer maintenant. Et avec cette épée, vous allez blesser quelqu'un. » Donc voilà, la vieillesse, dans ce qu'elle a de sénile, de ridicule, face à la jeunesse qui, précisément, alliée aux nouvelles technologies, est en train de se défaire du vieux monde, parce que, précisément, on ne va pas se retourner derrière nous quand tout change, etc. Donc, il me semble qu'il y a là un état d'esprit conforme, enfin, qui entre en résonance avec celui qui avait pu habiter les enthousiastes, les fervents de la révolution culturelle. Voilà pourquoi il me semble qu'il serait absolument indispensable d'analyser ce que cette adhésion avait de spécifique par rapport à d'autres engagements, à d'autres aveuglements, comme le communisme stalinien, etc. etc.
Alors, François Sureau. Je peux me tromper, mais il me semble que pour Simon Leys, en tout cas, qui est l'objet de notre débat, cette adhésion n'avait rien de spécifique, à un double titre. D'abord parce qu'il écrit explicitement. C'est d'ailleurs l'une des choses qui m'a... Rien ne m'a jamais choqué chez Simon Leys, mais l'une des choses avec lesquelles j'aurais aimé débattre avec lui, encore que ce soit une question absolument courue, c'est que à plusieurs reprises, et notamment à partir du moment où il a constaté que la doctrine maoïste emploie le mot de bourgeois de manière comme une catégorie abstraite et quasi métaphysique, exactement comme le nazi finissait par employer le mot de juif, en donnant une portée invraisemblable, à la fin, Simon Leys, à plusieurs reprises, paraît ne plus distinguer entre les totalitarismes. Il parle du nazisme, du communisme, du stalinisme, du maoïsme. Et au moins, dans une occurrence, il ne distingue pas entre les deux. Alors, on peut dire que c'est à raison de... Quoi qu'il en soit, je pense que, d'abord, lui ne voyait pas, et tout son effort, y compris de polémiste, a consisté à montrer que le maoïsme, d'abord, n'était pas spécifique dans sa pratique.
C'était ça, sans doute.
Voilà. Et d'autre part, que l'adhésion au maoïsme n'était pas non plus quelque chose de spécifique. Et pourquoi ? Parce que je crois, mais ça nous amènera peut-être dans un débat passionnant, je crois qu'il donnait à cette adhésion une dimension spirituelle, proprement spirituelle, ignorée même de ceux qui la mettaient en œuvre. Et c'est là où l'usage qu'il fait de Chesterton est extrêmement intéressant. Quand il parle de Chesterton, il explique à un moment que, pour Chesterton, c'était un paradoxe chestertonien habituel, en réalité, le mal ne réside pas dans la matière, ne réside pas dans ce qui se passe, ne réside pas dans les faits. Hein, on croit en général couramment que le mal, c'est d'aimer les jolies filles, alors que le bien, c'est d'aimer les grandes idées. Bon, pour Chesterton, c'est radicalement l'inverse. Le mal est par essence spirituel. Le démon est spirituel. Le démon est celui qui fabrique de l'illusion abstraite. Bon. Et pour Simon Leys, il le dit à au moins 2 reprises de manière extrêmement claire, l'adhésion de toute cette génération aux folies du maoïsme comme d'autres aux folies du stalinisme était absolument presque diabolique en ce qu'elle procédait d'une idée sans rapport avec la réalité de laquelle il fallait espérer un salut de l'homme qui était totalement impossible de cette manière. Et à cet égard d'ailleurs, l'opposition de Simon Leys, qui pourtant, d'après ce que j'ai compris, était un catholique assez classique, enfin, assez fervent même. Et quand on, quand il parle à un moment des, il voit la veuve de Chiang Kai-shek, il la rencontre à la messe un dimanche à la cathédrale Saint-Paul, par exemple. Je déduis de cet indice qu'il allait à la messe le dimanche. Eh bien, il y a une chose très caractéristique de ça, c'est son opposition avec le dominicain fou, Cardonnel, le dominicain devenu maoïste. Et il est clair que c'est exactement la même chose. C'est-à-dire, l'espoir fou du salut réalisé sur Terre au bénéfice d'une construction imaginaire totalement délirante, pour Simon Leys, c'est le mal. Et ce mal, il est diabolique.
Pierre Mansen, vous êtes d'accord?
Oui, bien sûr. Il y a beaucoup de choses dans ce que vous venez de dire. Et un des thèmes que vous venez d'aborder, c'est qu'effectivement, Simon Leys n'a pas arrêté de dire et de répéter plusieurs fois, et je l'ai abordé plusieurs fois dans mon livre, qu'effectivement, il y avait, dans l'adhésion au maoïsme, quelque chose de la foi religieuse. Donc il y a une dimension religieuse énorme dans le maoïsme, et peut-être plus encore que dans le communisme soviétique, et même dans le communisme, par exemple, cubain. Dans le communisme cubain, il y a côté tropical, les filles nues de la Havane, enfin tout ce côté-là un peu latino-américain. Mais dans le maoïsme, il y avait effectivement une dimension religieuse que Simon Leys a particulièrement dénoncée à plusieurs reprises. Et par exemple, chez Machocchi, avec qui il s'est affronté à la télévision, il y avait véritablement quelque chose de mystique, enfin, chez elle dans son maoïsme. Hein. Je voudrais répondre sur un autre point que c'est soulevé par François Zureau et Alain Finkielkraut. Dans le sud de l'inutilité, Simon Leys a écrit, vous parlez des Français, il dit que le pays qui, ayant produit Rabelais, Hugo, Montaigne et Pascal, Stendhal et Baudelaire, a battu un record mondial de stupidité en ce qui concerne le maoïsme. Donc effectivement, je crois que Sureau a totalement raison quand il dit que les Français, c'est quelque chose de typiquement français.
Oui, en même temps, l'aveuglement progressiste n'est pas ou n'est plus une spécificité française. Le climat qui règne aujourd'hui sur les campus américains et même dans tous les pays anglo-saxons. Mais avant d'en venir à la France, parce que j'aimerais qu'on en parle du rapport de Simon Leys à la France, et là je pense que nous serons tous d'accord, je voudrais insister une fois de plus sur la spécificité de l'horreur maoïste et sur la spécificité donc du charme exercé par la révolution culturelle, s'en prendre aux quatre vieilleries. Les vieilles idées, les vieilles habitudes, les vieilles coutumes, la vieille culture.
Et ça, c'est Deng Xiaoping. Ça, c'était le programme de Deng Xiaoping.
Mais c'était déjà Mao aussi, ça. Deng Xiaoping, c'était quatre modernisations.
Excusez-moi.
L'agriculture, l'industrie, la science, la défense nationale. Mm-hmm. Donc, effectivement, tout est quatre, pour des raisons que j'ignore. Mais Mao, c'était les quatre vieilleries. Ça a fasciné beaucoup en France. Et ça continue, c'est ça que je veux dire. C'est-à-dire que tant qu'on n'aura pas réfléchi, eh bien, il y aura une sorte de maoïsme bénin qui continuera à prévaloir, cette idée qu'il faut se défaire des vieilles idées, des vieilles coutumes, des vieilles habitudes, voire de la vieille culture. Et puis, j'ajoute que, et là, vous dites, par exemple, la spécificité de l'horreur de la révolution culturelle, vous la montrez très bien dans votre livre, Pierre Bonsen, quand vous décrivez le monstrueux lynchage de Bian Zung-yun, une femme dans la cinquantaine, secrétaire du parti et proviseur adjoint d'un lycée de filles de Pékin, réservé au cadre du régime, et qui est devenu, dites-vous, le symbole inaugural de la barbarie. Accusée de tout et n'importe quoi, à commencer de ses origines bourgeoises, elle fut soumise, comme d'autres responsables ou enseignants de l'établissement, à une sévère campagne de critique-combat, au cours de laquelle les jeunes gardes rouges mêlaient agressions physiques et verbales. Un commando de lycéennes prit d'assaut son appartement pour le saccager et y coller sur les murs des dazibao menaçants du style. Bian Zung-yun, la grognasse, sale sorcière, sale renarde, ne crois pas que tu vas pouvoir te carapater dans ton terrier. Proviseur, largue ta morgue, ta respectabilité tu peux la ramasser. Pendant les séances de combat, tu tremblais sous les critiques de lycéennes et des profs révolutionnaires. Tu ne tenais plus sur tes pattes, ta tête et ton bonnet d'âne, on les a trempés dans l'eau froide. Ou encore, salope, tiens-toi bien, sinon on va te dresser. Battue à plusieurs reprises, elle s'est retrouvée au milieu d'une parade macabre, le visage maculé d'encre. Elle devait se servir d'une bassine comme d'un gong et hurler « Je suis une capitaliste, une contre-révolutionnaire, une révisionniste, je mérite d'être battue, de crever, qu'on écrase ma tête de chien. » Elle s'est effondrée couverte de sang en se souillant et peu de temps après, elle est morte. Voilà quand même une chose abominable, mais si on avait réfléchi à ces spécificités, on ne pratiquerait pas, comme on le fait encore aujourd'hui, le culte éperdu de la jeunesse. Âge perméable s'il en est, violent, radical. Et or, ce culte existe toujours comme si de rien n'avait été.
Ce qui est très frappant,
François Sureau.
Je ne voudrais pas faire du Weber de sous-préfecture mal adapté, mais ce qui est très frappant là-dedans, c'est d'une certaine manière, ça me fait de la peine de dire ça, la dimension catholique. C'est-à-dire spécialement la dimension paulinienne, c'est-à-dire la recherche éperdue de l'homme nouveau, hein, de la répudiation du vieil homme, de ce qui commence maintenant et n'a pas de rapport avec le passé comme une conséquence de l'incarnation. Alors l'incarnation, hein, pour un chrétien, si c'est l'incarnation dans la figure de Jésus-Christ, ça va, elle est circonscrite à un temps, à un lieu, en Palestine, on s'efforce de faire comme lui, etc. Dès lors que la figure christique s'efface et qu'il reste quand même une dimension d'incarnation censée vous libérer du passé et vous projeter dans le nouveau, alors la folie s'incarne dans tout. Elle s'incarne dans Mao, elle s'incarne dans la réforme de Najat Vallaud Belkacem, elle s'incarne dans tout. Voilà. Et je pense que Simon Leys, qui était un catholique averti, a vu précisément la dimension hérétique au sens propre du terme, du délire religieux du progressisme. Ça me paraît absolument fondamental. C'est une dimension qui est ignorée des Français en général, parce que les mystères de l'Égypte étant des mystères pour les Égyptiens eux-mêmes, les Français qui sont des catholiques déchristianisés ignorent ce qui est resté en eux du fond catholique après la déchristianisation. Ce à quoi Simon Leys était particulièrement sensible, parce que c'était un esprit d'une très grande pénétration spirituelle.
Je voudrais d'abord signaler que la scène abominable que Alain Finkielkraut, vous venez de rappeler, a été racontée et dans un film absolument remarquable de Houillet, qui est disponible, que René Viennet a diffusé.
Ah, d'accord.
Et qu'on peut voir, qui a été encore diffusé dernièrement à la Cinémathèque française et qui a fait une énorme impression. Et c'est effectivement une scène inaugurale de la Révolution culturelle. De même que, effectivement, cette utilisation de la jeunesse dans un déchaînement complètement fou contre les professeurs, contre l'autorité des proviseurs, mais aussi contre la famille. C'est-à-dire une des scènes, je crois, les plus abominables que je raconte dans le livre, enfin que je reprends dans le livre et qui a été racontée par plusieurs personnes, c'est cette fillette, ce père d'une fillette d'une dizaine d'années qui se fait abattre en public devant 2000 personnes à Nankin, je crois, d'une balle dans la nuque parce qu'il a abîmé un portrait du président Mao.
Ah oui,
et c'est sa fille, sa fillette qui l'a dénoncé et qui a été décorée, promue, etc.
Oui, et ça rappelle Pavel Morozov en Union soviétique, quand même.
Ça là, aussi,
oui, mais c'est une récidive.
Mais c'est ce que Simon Leys nous a appris, il nous dit, c'est qu'effectivement, il y a eu toutes les familles, il y a eu des millions de familles qui ont été atteintes en Chine, et que la Chine aujourd'hui, et c'est là où Simon Leys était assez désespéré à la fin de sa vie, c'est que la Chine aujourd'hui, et d'ailleurs c'est ce que le prix Nobel de la paix à Liu Xiaobo, qui est en prison encore, a raconté, c'est qu'effectivement les générations, les nouvelles générations chinoises paye ce vide moral aujourd'hui, ce déferlement.
Mais, vous voyez, je vais me servir de l'affaire de la famille pour enfoncer encore une fois mon clou théologique qui me paraît insuffisamment mis en lumière. S'il y a bien une caractéristique évangélique, contrairement à ce qu'on entend l'Église catholique répéter toute la journée, c'est que l'Évangile est antifamilialiste. Hein. Il faut quitter son père. Mon père et ma mère sont ceux qui écoutent la parole de Dieu. Ce ne sont pas mon père et ma mère biologiques. Toute cette affaire repose sur la possibilité pour Abraham de sacrifier son fils pour être fidèle à la promesse. Enfin, tout ça n'est pas spécialement familialiste. Ni l'Ancien Testament, enfin ce que les chrétiens appellent l'Ancien Testament, ni l'Évangile. La haine de la famille, à laquelle on doit préférer l'homme nouveau, hein, quitte ton père, ton père quitte tes frères, qui aura perdu pour moi son père, ses frères, sa sœur, etc.
Le parti.
C'est absolument fondamental. Et je pense que Leys pensait, comme le disait Chesterton, que le XXe siècle était un monde plein d'idées chrétiennes devenues folles.
Devenues folles.
Mais c'est très important, parce qu'en réalité, on voit ce qui se passe. Et toute cette haine antifamiliale, qui est dans le nazisme, qui est dans le soviétisme, qui est dans le maoïsme, est là, au fond, une origine théologique devenue proprement maboule. Et ça, c'est très intéressant.
Et comment y a-t-il une origine théologique en Chine qui était un pays dont Simon Lesse montre très bien d'ailleurs qu'il se prenait pour l'univers,
oui.
qui se suffisait à lui-même et donc il n'a
Pardon,
pas
j'ai
subi
pas été, j'ai pas été suffisamment
cette influence.
Non, j'ai pas été, je ne parlais pas de la...
Encore
une fois, je ne parlais pas de ce qui s'est passé en Chine, sur lequel vraiment ma connaissance de la situation chinoise n'est absolument pas suffisante pour me permettre de porter un jugement en dehors du fait que je crois contraire à la nature humaine dans son ensemble, ce genre d'horreur. Mais
oui.
voilà, je parlais simplement de la facilité avec laquelle les intellectuels français se sont coulés dans ce modèle de rupture progressiste absolue jusqu'à la rupture des liens familiaux traditionnels. En fait, ils y étaient incités par leur substrat proprement théologique, devenu progressivement par ailleurs un substrat athée, mais n'ayant pas transformé la nature profonde de ce progressisme. Ce qui le rend encore plus dangereux. Et pour, alors, je ne voudrais pas dire que la ministre de l'Éducation, les gardes rouges, tout ça c'est pareil. Ce qui est pareil, en tout cas, c'est que leur turiféraire ne voit en aucun cas le centre de dinguerie, en réalité, d'où tout cela procède. Et auquel Simon Lesse était extrêmement intuitivement sensible, il me semble.
Alors, ce que vous me dites m'évoque un rabbin avec lequel Benoît XVI dialogue dans son livre « Jésus de Nazareth », Jacob Neusner, je crois, qui s'imagine parmi les disciples du Christ et qui écoute le Christ et qui dit « Il y a une chose sur laquelle je ne peux pas le suivre, c'est précisément cette question du père et de la mère. Je ne peux pas abandonner les miens. » Et il est vrai que le commandement central, c'est « Tu honoreras ton père et ta mère. » Donc, le clivage se fait là, selon lui, mais d'un autre côté, comme vous l'avez dit, Simon Lesse était chrétien, et il dit à un moment donné, dans un de ses livres, Ted Turner dit « Le christianisme, c'est une religion de perdants. Il ne peut pas rêver meilleure définition. » Et puis aussi, il cite cette très belle phrase de Chesterton, « Seule l'Église est capable de sauver un homme de la dégradante servitude d'être l'enfant de son temps. Ce n'est pas le siècle qui doit mouvoir l'Église, c'est l'Église qui doit mouvoir le siècle. » Donc il y avait, si vous avez raison, ce sont des idées chrétiennes devenues folles. Pour le reste...
Je le soupçonne peut-être d'avoir pensé d'une part que le fait d'empêcher qu'elle ne devienne folle, en tout cas chez les chrétiens, était la meilleure manière de se prémunir contre la folie. Et par ailleurs, d'avoir eu une pensée extrêmement profonde sur ce qui procédait de ce à quoi il croyait, c'est-à-dire de l'incarnation du Père, dans ses conséquences chez tout homme de bonne volonté.
Alors,
au sens paix sur la terre aux hommes de bonne volonté.
Voilà. Alors maintenant, parlons un peu de la France et de Simon Lesse face à la France. Pierre Hickmans, il est né en Belgique. Et il avait un rapport un peu d'extériorité amusé vis-à-vis de la France, qu'il aimait beaucoup, mais dans Protée et autres essais, il cite Henry James, écrivant que la France produit de temps à autre des individus qui expriment la vanité nationale, commune à chaque nation, avec une sottise transcendante qui n'a d'équivalent nulle part ailleurs. C'est un sujet très sensible pour un étranger qui réside en France, car il s'agit là d'un trait qui le fait souffrir. J'ignore comment les gens qui n'aiment pas la France réagissent à cette fantastique prétention qu'ont les Français d'exercer une mission spirituelle dans le monde, mais je peux seulement dire qu'elle est extrêmement déplaisante pour ceux qui l'aiment. Les étrangers qui vivent ici souhaitent simplement jouir de façon paisible et raisonnable des divers fruits succulents de la civilisation française, mais ils n'ont aucun désir de passer leur temps en prosternation et en génuflexion. C'est à propos de Victor Hugo, d'ailleurs, que Henry James écrit cela. Donc, cette vanité nationale, il en parle aussi dans un très beau texte sur la belgitude d'Henri Michaud, en disant qu'à un moment donné, il s'est mis à corriger brutalement un barbare en Asie et à gommer toutes les aspérités. Parce que précisément, tout d'un coup, il est devenu français, et devenant français, il s'est cru imbu, d'une mission particulière, et c'est au nom de cette mission que il s'est pris au sérieux, soudain. Voilà. Et donc, il y a ce rapport, disons, un peu ambivalent à la France, Pierre Bonsen.
Oui, vous savez que avec Simon Lesse, on partageait tous les deux une grande amitié pour Jean-François Revel. Et Jean-François Revel, une des citations qui nous amusait le plus tous les deux, c'était Jean-François Revel s'en prenait à cette idée de la France qui se gargarise de son rayonnement culturel. Et Jean-François Revel avait eu cette formule délicieuse: depuis que la France rayonne, on se demande comment le monde entier n'est pas mort d'insolation. Et ça, il adorait ça, enfin, effectivement, ça correspond en plus à l'esprit de Revel et l'esprit de Simon Less. Effectivement, ce qui vraiment le n'aimait pas en France, d'abord c'était le provincialisme de français dont il parlait beaucoup, enfin le côté plein d'auteurs qu'il aime beaucoup en France, dont Chesterton par exemple. Bon, il y avait des gens comme Queneau par exemple ou Poulenc qui adoraient Chesterton, mais finalement c'est des auteurs comme ça et Chesterton n'était pas, mais ce qui le,
c'est-à-dire il restait marginal, c'est ça?
Oui, il restait marginal longtemps,
longtemps, hein, très longtemps,
c'est beaucoup moins maintenant, hein. Mais ce qui le, en France, ce que je dirais qu'il voyait par-dessus tout, c'est que en France régnait un grand esprit de sérieux. Esprit de sérieux. Et c'est pour ça qu'il aimait beaucoup la littérature anglo-saxonne. Evelyn Waugh, Chesterton même, c'était des gens comme ça. Et l'esprit de sérieux, il y a un grand esprit de sérieux
Il cite d'ailleurs dans son article, sur la Belgitude de Michaud, Borges, un écrivain né dans un grand pays, court le risque de présupposer que la culture de sa patrie lui suffit. Paradoxalement, c'est lui qui tend ainsi à être provincial. Oui. Et effectivement, un Belge ne peut pas être provincial. Qu'il est convaincu, dit-il, de son insignifiance. Et ça le préserve. Un Belge arrogant, dit-il, c'est une contradiction dans les termes. Alors que l'arrogance, les Français ont du mal à y échapper.
Et puis, il aimait aussi, à juste titre, je pense, les gens un peu décalés. C'est-à-dire qu'il voyait l'écrivain français se pensant lui-même comme une espèce de haut fonctionnaire du bien, comme une sorte d'employé permanent de l'office du tourisme, de l'esthétique, quoi. Et ça lui semblait ridicule. Je crois que s'il aime beaucoup les écrivains français, remarquez que les écrivains anglais qu'il aime sont des écrivains doublement minoritaires. D'abord parce qu'en Angleterre, un écrivain n'est pas considéré a priori comme quelqu'un de considérable. C'est d'ailleurs l'une des raisons pour lesquelles Orwell, qui s'appelait pas comme ça, avait décidé de changer de nom au moment de publier Dans la Dèche à Paris et à Londres. Et puis, en plus, il aime bien en Angleterre les écrivains catholiques qui sont protégés par leur statut minoritaire, comme Evelyn Waugh, Belloc ou
Chesterton. Oui, mais il y a Conrad, par exemple, aussi.
Il y a Conrad, oui.
Qui vient de la Pologne.
Il vient d'ailleurs. Et en fait, je crois qu'il aime bien chez les écrivains anglais cette idée que ce sont pas des... Il n'y a pas ce côté aux fonctionnaires. Je me demande si quelque chose ne l'énervait pas aussi en France, qui est cette manière pour un pays de se réclamer abusivement des talents qui ont vu le jour en son sein, qui est une chose toujours extrêmement pénible. Par exemple, on entend maintenant, moi ça avait frappé au moment de l'année Rimbaud, hein, un ministère de la Culture organisait une course des voleurs de feu de Paris à Charleville, enfin un truc qui aurait fait vomir le pauvre Arthur. En fait, le pays tout entier, qui est quand même globalement un pays de crustacés, pour parler comme André Gide, magnifiait Rimbaud et en réalité s'ennoblissait à travers Rimbaud. Ce côté était assez étranger.
Pourquoi
à Simon
pays
Lays,
de crustacés, qu'est-ce que vous voulez dire?
Tout pays est un pays de crustacés par nature.
Ouais. Oui, non mais c'est vrai, de toute façon c'est ce qui est un peu...
Je vais pas mettre en cause mon patriotisme.
Non, pas du tout. C'est pas la question. Non, je n'aime pas l'expression moi-même. Et là, je suis tout à fait d'accord avec vous, François Sureau. Fier d'être français. Parce que il est vrai que la France, c'est une civilisation. C'est une littérature absolument magnifique. On peut être reconnaissant de parler que cette langue soit notre langue maternelle, c'est-à-dire nous pouvons avoir un accès direct à une littérature aussi belle, reconnaissance, gratitude, mais tout cela, ça pousse davantage à l'humilité qu'à la fierté, car il faut être fou pour s'identifier
à
l'auteur de Bérénice.
Mais oui, à la fin, on croirait entendre un dialogue d'Audiard. Moi, je suis un type dans le genre de Blaise Pascal. Non.
Et
je pense qu'il était très sensible à ça.
Il était profondément Simon Less était profondément cosmopolite et il avait quelque chose de ça, ce qu'un certain génie national français n'est pas cosmopolite.
Il y a quand même...
Non, mais il faut pas exagérer.
Pensez à Valéry Larbaud.
Bien sûr, je pense à Valéry Larbaud tout de suite.
Je pense à
Valéry Larbaud. Mais
c'est l'un des derniers grands écrivains cosmopolites français. Ça, c'est l'un des derniers
qui vit dans trois langues. Il se trouve que je suis moi-même métèque, si j'ose dire, je suis franco-colombien, donc, etc. Et donc, il adorait l'Amérique du Sud, etc. Il s'intéressait à ça. Et, par exemple, effectivement, quelqu'un comme Kaiwa l'intéressait beaucoup.
Ah oui.
Parce que ça m'a beaucoup touché. C'est que Caillois, qui est un esprit immense, est un peu oublié de tout le monde, sauf de Simon Leys. Ouais.
Oui, parce qu'il voyait dans Caillois, il voyait bien l'esprit cosmopolite de Caillois, qui avait vu enfin, l'Amérique du Sud, tout ça, et ça l'intéressait beaucoup. Mais d'autre part, par rapport à l'Angleterre et la France, Simon Leys, par exemple, il disait que les Français étaient un peuple où il y avait beaucoup d'humour, incontestablement. Par exemple, chez Voltaire, il y a beaucoup d'humour, des traits de l'esprit, etc. Non, chez les Français, il y a beaucoup d'esprit, beaucoup d'esprit, mais peu d'humour. Parce que l'humour implique de se moquer de soi-même. Alors, les Français ont des traits d'esprit extraordinaires. On a des écrivains qui font des traits d'esprit à la Voltaire, enfin, etc. Mais il y a beaucoup moins d'écrivains qui ont de l'humour au sens anglais du terme.
Alors justement, et ce sens anglais est élucidé peut-être par une phrase de Chesterton que Simon Leys cite et que je trouve merveilleuse. Mes critiques pensent que je ne suis pas sérieux, mais seulement amusant. Ils croient que amusant est le contraire de sérieux, mais amusant est seulement le contraire de pas amusant et de rien d'autre. Ça, je trouve ça absolument...
Je suis très content que vous citiez ça, parce qu'effectivement, ça donne une autre image de Simon Leys, et qui était effectivement quelqu'un de très amusant.
Et très sérieux en même temps.
Très sérieux, mais très, très profond.
Voilà.
Mais qui pouvait s'amuser d'anecdotes. Enfin, moi, je lui envoyais tout le temps des petites anecdotes, des petites choses, et c'était formidable. Et il m'a envoyé des petites choses, mais très très drôles. Enfin,
Et il aimait aussi ce que les grands auteurs pouvaient avoir d'amusant, puisque vous avez publié, en même temps que votre livre, Pierre Monsen, des extraits de lettres a envoyé Simon Leys quand vous viendrez me voir aux Antipodes, et c'est merveilleux parce que vous les classez, ces extraits, par thème. Mmh. Donc on n'a pas du tout l'impression de lire une correspondance. Mmh. On lit des fragments. Et donc, à Supervielle, nous avons droit, au fragment Supervielle, à un passage d'un poème en prose que je ne connaissais pas, absolument délicieux. « Soudain, je me sentis comblé. J'étais devenu un rhinocéros et trottais dans la brousse. Moi, si vulnérable d'habitude, je pouvais enfin affronter la lutte pour la vie avec de grandes chances de succès. Ma métamorphose me paraissait tout à fait réussie jusqu'en ses profondeurs et tournait au chef-d'œuvre lorsque j'entendis distinctement deux vers de Mallarmé dans ma tête dure et cornée. Décidément, tout était à recommencer. »
Vous voyez, Supervielle, ça fait typiquement le genre d'auteur qu'il aimait, qui nous venait comme par hasard de l'Uruguay, de Montevideo, etc. Et je suis très très content d'avoir fait connaître à Simon Leys, parce que ce qui était amusant, c'était les échanges. L'homme de la Pampa de Supervielle.
De Supervielle, oui, il le dit d'ailleurs. Il vous en remercie.
Et qui est un livre absolument merveilleux. Et c'est ça le genre d'écrivain qu'il aimait.
Il y a une chose qui est. Moi je trouve qu'il y a une des clés, en dehors de son naturel, de sa drôlerie, de son discernement et même de son intelligence spirituelle, il y a une chose caractéristique chez Simon Leys, je pense au titre que vous avez donné à l'émission Simon Leys éducateur, qui est absolument décisive, c'est la sincérité. Moi, ce qui m'a frappé, ce qui traverse toute son œuvre, ce qui le rend bouleversant, c'est sa sincérité. Et je me demande parfois si cette sincérité n'est pas absente de la moitié de la littérature française, au moins de la moitié de l'œuvre des écrivains qu'il n'aime pas. Par exemple, il est clair qu'il n'aime pas Chateaubriand. Il est clair qu'il n'aime pas Malraux exactement pour cette raison et qu'il est prêt à absoudre Chardonne malgré ses opinions politiques, pas seulement comme on le dit à cause du style, mais à cause de sa sincérité, fut-elle marquée de bêtises.
Parce qu'il reconnaît quand même qu'il y a une certaine bêtise chez Chardonne.
Trouve même horrible, oui. Mais en tout cas, je pense que la sincérité, qui est quelque chose qui manque souvent aux Français.
Je ne dirais pas tout à fait ça sur Chardonne. Oui. Ce qu'il appréciait, c'est Chardonne, c'est le style.
Oui, mais il ne pensait pas que le style soit... Enfin, je pense qu'il l'appréciait parce que ce style était... c'était pas un pur style détaché de tout, c'est pas Salammbô, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? C'est qu'il collait à une espèce de simplicité, peut-être bête, de l'homme,
Il y a quand même, il me semble, et on terminera là-dessus, qu'il oscille entre deux modèles, c'est-à-dire qu'il a une grande admiration pour Orwell, l'extraordinaire intégrité d'Orwell, en plus de sa sincérité, aussi pour Tchekhov, vous le montrez dans justement cette correspondance. Tchekhov, écrit-il, reste pour moi un écrivain unique et rare, à la fois un artiste exquis et un homme admirable, mais il s'étonne aussi de sa propre admiration littéraire pour les deux étendards de Lucien Rebattet, Et pour certains auteurs qui sont des hommes d'une vilénie, si vous voulez, totale, absolue, et dont il faut bien reconnaître que mystérieusement, ils ont écrit des chefs-d'œuvre d'où cette vilénie est absente. Et on a le sentiment qu'ils s'interrogent beaucoup sur cette difficulté.
Oui, parce que ça, c'est quelque chose qu'il faut bien comprendre. Là, il est partagé entre une tradition qui vient de l'esthétique chinoise. Dans l'esthétique chinoise, comme j'essaie de l'expliquer deux, trois fois, il y a une espèce de corrélation entre l'éthique et l'esthétique. C'est-à-dire qu'un grand artiste chinois est aussi quelqu'un de grand du point de vue de l'éthique. Hein. Et en revanche, dans la tradition occidentale, prenons le cas de Rebatté, qui est le plus simple et le plus horrible, enfin, etc. C'était quand même un épouvantable nazi. Enfin, je veux dire,
il dit même qu'il était pire que Céline.
Oui, pire que Céline. Et j'ai eu beaucoup de discussions avec lui. Beaucoup de discussions avec lui. La personne à qui je dédie le livre, Claude Maillas, qui vit toujours, s'est battu physiquement avec Rebatté. Et c'est vrai que j'ai beaucoup de mal.
Et lui, il tenait bon quand même. Il disait que c'était un grand livre, comme d'ailleurs George Steiner.
Et Thiamble aussi. Thiamble s'est fait virer des temps modernes parce qu'il avait écrit que Les Deux Étendards était un grand livre. Mais effectivement, on a du mal à l'œuvre n'a pas, mais ça c'est le temps fait son œuvre aussi. Mais on a du mal à lire un livre écrit par un parfait salaud. Et pourtant, je crois que Le Deux Étendards est un grand livre.
En tout cas, ce qui est fascinant chez Simon Leys, quand on le relit maintenant, c'est d'une certaine manière, j'ai connu assez peu d'auteurs qui soient à ce point dans leur étonnement, dans leur parti pris, dans leur préjugé, dans leur pur de toute bassesse. C'est extraordinaire quand même. Il n'y a aucune bassesse.
Aucune bassesse, jamais.
Il n'y a aucune bassesse. Et ceci anime la totalité de sa prose, de son être, de ce qu'il écrit, d'une espèce de frémissement qui a disparu avec lui et qui est une, moi, comme pour beaucoup de lecteurs, j'imagine, une grande cause de chagrin et de nostalgie.
Et d'ailleurs, il disait sur Orwell des choses qui peuvent s'appliquer à lui-même lorsque. Il parle du moment, du processus par lequel Eric Blair devint George Orwell. Cette part Orwell de lui-même était pour Blair une image idéale qu'il devait essayer d'atteindre. Une image faite d'intégrité, d'honnêteté, de simplicité, de conviction égalitaire, de vie frugale, d'écriture dépouillée et de franc-parler. En un mot, l'idéal d'un homme déterminé à tout prix à énoncer des vérités pas bonnes à dire. Il en va de même pour Pierre Rickmans, devenu Simon Leys. Merci beaucoup, Pierre Bonsen. Je rappelle le titre de votre livre, Le parapluie de Simon Leys, aux éditions Philippe Ray. Simon Leys, vous avez publié aussi Quand vous viendrez me voir aux Antipodes, Lettres à Pierre Bonsen, chez le même éditeur. Et votre article, Image de Simon Leys, François Sureau, est publié dans le numéro 150 de la revue Commentaire. Vous trouverez toutes les références bibliographiques sur le site répliquefranceculture.fr où l'émission est téléchargeable un an et réécoutable 1000 jours. C'était Réplique, une émission d'Alain Finkielkraut, avec la collaboration d'Anne-Catherine Hochard et Didier Lagarde. À la technique aujourd'hui, Julien Douminc. Dans un instant, Concordance des temps de Jean-Noël Jeannonet.